records never die.
Soyez les bienvenus à l'écoute de ce nouveau numéro de Old Records Never Die. J'avais pris l'habitude, un peu délaissé ces derniers temps, de vous parler d'albums qui ont marqué l'histoire du rock. Donc, j'ai décidé de reprendre cette série en vous parlant aujourd'hui d'un album culte de l'histoire du rock. Il fait partie de ceux que tout bon amateur de cette musique doit posséder. Il a marqué l'histoire d'un groupe et de son chanteur pour diverses raisons qu'on va évoquer maintenant, dans cette émission consacrée à L.A. Woman des Doors. L'album est publié le 19 avril 1971. Il a été enregistré entre novembre 70 et janvier 71 à Los Angeles. Dans la version originale, il contient 10 titres pour un peu plus de 48 minutes. C'est le sixième album studio du groupe. Alors, je parle de version originale parce que par la suite, il y a eu deux autres versions qui ont été publiées plus tard, qui comportent beaucoup plus de titres. Et cet album, il a plusieurs caractéristiques. La pochette originale du vinyle a les coins arrondis. Elle est toute simple. Le nom du groupe, le titre de l'album et une photo des quatre musiciens. Les coins arrondis, c'était quand même pas très fréquent. Autre particularité, ce disque recevra le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Ce prix visait à récompenser des œuvres musicales enregistrées de qualité dans le domaine de la chanson, de la musique populaire ou savante. Ce n'est donc pas un prix spécifiquement rock. La qualité de l'enregistrement n'est plus aussi évidente aujourd'hui avec les progrès des techniques de prise de son. Mais à l'époque, il faut reconnaître qu'il était d'un niveau élevé. Bon, mais ce n'est pas pour ça que c'est un disque important. C'est un album qui est d'une cohérence incroyable. Il n'y a pas un titre qui soit à écarter. Tous vont du très bon à l'excellent. Souvent, dans les meilleurs albums, un ou deux titres sont d'un niveau inférieur. Mais là, ce n'est pas le cas de L.A. Woman. Alors, on va écouter des extraits de cet album, et exclusivement de cet album, et on en écoute tout de suite un premier. Le titre qui ouvre l'album, il se nomme « Changeling », dans lequel Morrison dit qu'il est en train de changer. Il fantasme sa transformation physique dans le texte, mais aussi derrière le micro. Il se réinvente en une sorte d'hybride entre poète bluesman et sorcier chaman. Et ce titre donne tout le ton à l'album, et on l'écoute, ça s'appelle « Changeling ».
You do.
Revenons un petit peu sur l'histoire de ce groupe qui s'est formé en 65. Ça commence par une rencontre entre Raymond Zarek, claviériste du groupe Rick and the Raven, et Jim Morrison. Morrison lit les textes qu'il écrit à Manzarek, qui lui propose, à ce moment-là, de les mettre en musique. Plus tard, Ray Manzarek rencontre John Densmore, batteur, et Robbie Krieger, guitariste, lors d'une conférence sur la méditation transcendantale. Je vous rappelle qu'on est à Los Angeles dans les années 65, le Flower Power et le mouvement hippie n'ont pas encore commencé, mais on est vraiment aux prémices. Les quatre gars forment alors un groupe qu'ils nomment The Doors, en référence au livre « Les portes de la perception » d'Aldous Huxley, lui-même inspiré d'un poème de William Blake. L'idée est de dire que nous sommes contraints par l'éducation que nous avons reçue, nous sommes enfermés par les valeurs morales qu'on nous a inculquées, et que pour libérer notre esprit, nous devons franchir les portes de la perception qui nous permettront de vivre différemment et mieux, en harmonie avec le monde qui nous entoure. Et le seul moyen de faire sauter ces verrous est l'utilisation de produits hallucinogènes. Le cadre est donc posé dès le début. On est, je vous rappelle, à l'époque, aux prémices de toute la période hippie et rock psychédélique qui revendiquera la consommation de drogue, encouragée par les écrivains de la Beat Generation, comme Jack Kerouac ou Allen Ginsberg. Après quelques temps de rodage, le premier album paraît en 1967 et c'est toute une série de succès qu'il va connaître, faisant de lui l'un des groupes phares de cette période. Il y aura deux albums en 67, un en 68, un en 69, un en 70, avant d'arriver à LA Woman, plus un double album capté en public. Mis à part The Soft Parade paru en 1969, tous les albums vont crescendo, ils sont meilleurs à chaque fois. Alors je vous propose un second extrait de cet album, celui qui a donné son titre au disque, LA Woman. Là aussi, c'est un petit bijou d'un peu plus de 7 minutes. Morrison y répète souvent Mr. Mojo Rising. Mr. écrit MR en anglais. Et c'est juste l'anagramme de Jim Morrison. Mais plus que ça encore. Un mojo, c'est un petit sac contenant divers objets. Il est beaucoup utilisé dans les rites houdous et peut être bénéfique ou maléfique selon le sens qu'on lui donne. Les premiers bluesmen noirs utilisaient fréquemment ce terme, mais en lui donnant une autre signification. Puisqu'ils n'avaient pas le droit de parler de sexualité, ils utilisaient le double sens, et en l'espèce, le mojo n'était autre que le sexe masculin. Mr. Mojo Rising a dans ces conditions une toute autre signification. Mr. Mojo Rising, Jim Morrison, sexe en érection. Tout ça fait référence au sexe symbole qu'était Jim Morrison. Et puis aussi, cette chanson est un hommage à la ville qu'il aime le plus, celle où il se sent le mieux et qu'il va néanmoins, mais on va y revenir, devoir quitter. On écoute donc LA Woman.
City of night, city of night, city of night, woo, come on. fields are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam, cops in cars, the topless bars, never saw a woman
Le leader du groupe est indéniablement Jim Morrison. Il écrit les textes et les autres composent. Mais c'est lui qu'on voit le plus. Beau gosse, belle gueule, corps svelte et élancé, il est doué d'une personnalité très charismatique. Les autres sont en retrait, mais volontairement. Tout pourrait aller pour le mieux s'il n'y avait pas les tourments de Jim Morrison. Il est naturellement indépendant. Il est issu d'une famille de la classe moyenne américaine, un père militaire qui a beaucoup bougé pour évoluer dans sa carrière. Une enfance ordinaire bercée par l'obsession du père quant aux bons résultats scolaires qu'il exigeait de son fils. Jim Morrison sera attiré par la littérature plus que par les sciences et très très vite, il se met à écrire ses premiers poèmes. Alors il faut reconnaître qu'il a un style et une vraie patte dans cet exercice. Malheureusement, il est bouffé par sa consommation de drogue et d'alcool. Ça le rend encore plus ingérable. Il est capable de se présenter complètement défoncé au concert, laissant libre cours à son imagination et débitant des textes improvisés que ses copains découvrent sur scène. Il peut se montrer aussi très provocant à l'égard des flics, des politiques et même du public. Et il faut reconnaître qu'une partie de son succès vient de là. On assiste à un concert des Doors dans l'espoir secret de voir Morrison partir en délire. Alors le titre que j'ai choisi maintenant est celui qui se rapproche le plus des prestations scéniques de Jim Morrison. C'est une chanson qui est plus parlée que chantée, comme Morrison avait l'habitude de le faire sur scène quand il partait dans ses improvisations poétiques. Ce n'était bien évidemment pas toujours aussi bien réussi que ça. Et le titre s'appelle The Wasp, Texas Radio and the Big Beat.
I want to tell you about Texas Radio and the Big Beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow with plenty of precision. The backbeat, narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance. Others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together in this thin route. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. Negroes in the forest, brightly feathered. They are saying, forget the night. Live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about the heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about the hopeless night.
Le paroxysme sera atteint en mars 1969 à Miami lors d'un concert rendu célèbre. Morrison a raté son avion, il arrive en retard, dans une salle qu'on ne peut plus tenir. Les organisateurs ont vendu plus de billets qu'il n'y a de place. La salle est surchauffée, sans aération. Quand Morrison arrive enfin, il est complètement bourré et il insulte le public. Il les compare à des moutons qui aiment se faire marcher dessus. Et comme ils ne réagissent pas, ils s'énervent encore plus. Jusqu'au moment où il s'agenouille devant son guitariste en mimant une fellation. Et par la suite, il dit qu'il va montrer ses parties génitales et commence à déboutonner son pantalon. La police intervient aussitôt et jette Jim Morrison en prison pour une nuit. Alors bien évidemment, une telle attitude ne passe pas en Floride. Et à l'issue d'un procès qui aura lieu quelques semaines plus tard, il est condamné à une peine d'amende et surtout 8 mois de prison. Bien évidemment, il fait appel de ce jugement. Alors la conséquence logique de tout cela, c'est que la tournée qui était programmée est annulée et le groupe en profite pour se mettre à l'écriture. Et c'est pendant cette période d'inactivité forcée que les albums Morrison Hotel et L.A. Woman seront composés. Et quand on arrive donc à l'enregistrement de L.A. Woman, tout va mal. Tout va mal pour plusieurs raisons. Paul Rothschild, le producteur depuis le début, quasiment le cinquième Doors, est parti. Il a été très touché par le décès de Janis Joplin pendant l'enregistrement de Pearl et il a dû terminer seul le mixage. Il ne veut pas que Morrison prenne le même chemin. Depuis leur début, les Doors avaient le même producteur, Paul Rothschild. Alors, ils le mettent en garde, mais en vain. Morrison s'enfonce de plus en plus dans ses dépendances. Rothschild dira qu'il n'a pas voulu cautionner ce risque et qu'il est parti à cause de ça. Pour les pousser à modifier leur comportement, il leur dira que ce qu'ils viennent de composer est de la musique de cocktail. Ça, évidemment, ça passe pas, et donc Rothschild s'en va. Sans producteur, le groupe fait alors appel à Bruce Botnick, qui est leur ingénieur du son depuis toujours. Deuxième problème, leur label a publié un best-of avec sur la pochette une photo de Jim Morrison, c'est beaucoup plus vendeur. Alors ça ne plaît pas au groupe qui n'a pas été consulté, et Morrison ne veut pas être seul en photo sur la pochette. Les relations deviennent tendues entre le label et le groupe. Elektra, donc le label, refusera la prise en charge de la location du studio où ils avaient l'habitude d'enregistrer. Les Doors doivent donc financer eux-mêmes leur enregistrement. Ils se rabattront sur leur local de répétition et ce point aura beaucoup d'importance. Et troisièmement, Morrison est aussi très affecté par les disparitions de Jimi Hendrix et de Janis Joplin. Il sait que ses excès le conduisent à la même issue fatale. Voilà donc le contexte, pas très euphorique, dans lequel débute l'enregistrement de Hey Woman. Mais tout ça, tout ce qui aurait pu nuire au groupe, va s'avérer au contraire très bénéfique. Très bénéfique parce que les musiciens se sentent libérés de la présence de Paul Rothschild, figure du père qui les empêchait de faire ce qu'ils voulaient. Avec Botnick, ils sont beaucoup plus libres. De surcroît, Botnick a l'idée de leur proposer un enregistrement à l'ancienne. Tout le monde dans le studio, on joue, on enregistre. La plupart des morceaux sont enregistrés live en studio avec quelques overdubs, notamment pour les claviers. Il est également fait appel à des musiciens additionnels, Jerry Cheff à la basse et Mark Benno à la guitare rythmique. Les Doors reviennent à leurs premières amours. Le blues, mais pas le blues du Delta ou celui de Chicago. Leur blues à eux, porté par les textes très poétiques de Morrison. En ce sens, c'est vraiment une création très originale et très personnelle. Morrison écrit ses états d'âme et les autres les mettent en musique. L.A. Woman est un disque des Doors et en même temps, c'est un peu autre chose. Il y a dans cet album une tonalité que les précédents n'avaient pas. On écoute maintenant un des titres les plus blues, Cars is by my window. Pour l'anecdote, il semble que le jour de l'enregistrement, Morrison a pas mal picolé. On joue, on enregistre, et vers la fin de la chanson, Morrison improvise un truc. il imite un son de guitare avec pédale wah-wah ou un son d'harmonica, vous jugerez vous-même. C'était complètement imprévu, mais heureusement ça a été conservé et ça donne tout son charme à ce morceau, Cars Is By My Window.
The cars hiss by my window like the waves down on the beach. The cars hiss by my window like the waves down on the beach. I got this girl beside me, but she's out of reach. Headlight to my window, shining on the wall. Headlight to my window, shining on the wall. Can't hear my baby, though I call and call.
Les Doors sont chez eux, hein, je vous l'ai dit. Ils ne ressentent pas la pression d'aller vite et ils maîtrisent toute la chaîne de la composition au mixage final. Cette liberté se retrouvait, ça s'entend sur l'album. Chacun des musiciens est libre de s'exprimer et il s'avère qu'ils sont largement meilleurs que ce qu'on pensait. Jusqu'à maintenant, le groupe fonctionnait autour de Morrison. Mais là, c'est devenu autre chose. Krieger met une patte jazzy dans son jeu. Il continuera d'ailleurs dans cette voie pour le reste de sa carrière. Manzarek a des partitions de clavier beaucoup plus élaborées qu'auparavant. et Densmore se montre un batteur discret mais très efficace. Le mixage final sera en partie réalisé sans Jim Morrison. Il n'est plus aux États-Unis. Il est parti illégalement car il était en liberté conditionnelle avant le jugement en appel. Il n'est donc pas prévu de tournée promotionnelle pour cet album. Les raisons pour lesquelles Morrison est parti sont de deux ordres. 1. Certainement pour échapper à la prison s'il venait à être condamné en appel. Et 2. Parce qu'il veut changer de vie. Il ne veut plus chanter. Il veut se consacrer exclusivement à l'écriture et il veut arrêter la consommation de drogue et d'alcool, ce qui lui est impossible s'il reste dans son univers. Il s'envole donc pour Paris, où il ne connaît, a priori, pas beaucoup de monde. Cet album s'annonce donc comme étant le dernier des Doors dans son line-up original. Mais les choses étant ce qu'elles sont, tout est toujours possible, et Morrison peut encore changer d'avis en fonction du résultat de l'appel. La consommation d'alcool et de drogue se voit et s'entend parfaitement sur Elle & Woman. Elle se voit parce que Jim Morrison a changé. Fini le sexe symbole qu'il a été. Il a grossi. Le pantalon moulant en cuir ne rend plus le même effet. Le visage est bouffi, ce qu'une barbe fournie n'arrange pas. La voix aussi a subi une mutation importante. Elle est plus profonde, n'a plus la même finesse qu'elle pouvait avoir à ses débuts. L'alcool et la fumée sont responsables de ce changement. Mais au lieu d'être un handicap, cette nouvelle voix donne une autre dimension aux chansons. L'univers des Doors a aussi changé. Paul Rothschild, le producteur des débuts, a claqué la porte, car il est en désaccord avec les compositions de Manzarek et Krieger. Il s'est consacré à l'enregistrement du dernier album de Janis Joplin, publié après sa mort. En peu de temps, ce sont deux amis de Morrison qui viennent de disparaître, Janis Joplin après Jimi Hendrix. Un autre extrait de cet album avec le titre « L'America ». Alors cette chanson n'a pas été écrite initialement pour ce disque. Elle avait été composée pour faire partie de la bande-son du film « Zabriskie Point » de Michelangelo Antonioni, qui ne l'a finalement pas retenu, préférant Pink Floyd. Les Doors, déçus de ce refus, ont décidé de la publier et grand bien leur a pris. Il y a un côté hypnotique dans ce titre construit autour d'une répétition de la même phrase musicale. Et je vous propose qu'on l'écoute.
and then I'll teach you how to find yourself. La America.
Côté musical, l'orientation prise par le groupe est très blues, mais aussi rock et jazzy. On est loin des chansons un peu légères qui avaient fait leur succès. À sa sortie, l'album est bien accueilli, ce n'est pas une surprise. Il diffère des précédents, mais pas au point de déstabiliser le public des Doors. Les ventes sont bonnes, et elles vont exploser quelques mois plus tard quand on apprendra le décès en juillet 71 de Jim Morrison à Paris. La version officielle dit qu'il est mort d'un arrêt cardiaque dans sa baignoire. Le certificat de décès a été donné aussitôt et l'inhumation au Père Lachaise a été très rapide. Il est apparu plus tard que les choses ne se sont pas passées comme ça. On a la certitude que ce soir-là, Jim Morrison est allé dans une boîte très à la mode à l'époque, celle de la jet-set parisienne. Morrison était à la table d'un dealer bien connu. Il s'est levé et est parti aux toilettes. Ne le voyant pas revenir, ses amis sont allés le chercher. Ils n'ont pu ouvrir la porte des toilettes. On a fait alors appel à un videur, plus costaud que les autres, qui a défoncé la porte pour découvrir le corps sans vie de Morrison. Le patron de la boîte, qui ne voulait pas d'ennui, a fait condamner l'accès aux toilettes le temps qu'on embarque le corps de Morrison dans une voiture et qu'on le dépose dans sa baignoire. Il ne fallait surtout pas qu'il y ait une suspicion de circulation de drogue dans l'établissement. Alors, à défaut d'autopsie, on ne connaîtra jamais la cause exacte du décès, mais il y a fort à parier que c'est une overdose qui l'a emporté. D'ailleurs, le lendemain du décès, le dealer en question est parti au Maroc, dont il n'est jamais revenu puisqu'il est mort aussi d'une overdose dans ce pays. On va écouter maintenant la dernière chanson que Jim Morrison ait enregistrée. Elle figure en dernière position sur l'album. C'est un bijou de réalisation et c'est de celle-là que Paul Rothschild disait que c'était de la musique de cocktail. Je vous laisse juger par vous-même. C'est juste grandiose, tout est juste dans ce titre. Composition, interprétation et arrangement avec ce fond de pluie permanent. Ça fait aussi un peu plus de 7 minutes, mais on n'a pas le sentiment de voir le temps passer. Un pur bijou. Rien de ce qu'a écrit Morrison ou tout autre rocker n'égale la mélancolie, la pertinence et le pouvoir de fascination de Riders on the Storm, a écrit Stephen Davis, journaliste et biographe de Jim Morrison. On écoute donc Riders on the Storm.
riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. We'll be right back.
Jim Morrison mort, il y aura encore deux albums des Doors avant la séparation définitive du groupe en 1973. Cependant, pour beaucoup, et pour moi aussi, la carrière des Doors s'arrête avec L.A. Woman. Si Jim Morrison n'était pas mort, si son jugement en appel ne l'avait pas condamné à une peine de prison, aurait-il changé d'avis? Serait-il revenu avec son groupe? Autant de choses que nous ne saurons jamais. Toujours est-il que ce groupe, qui n'a duré que quelques années, a marqué durablement l'histoire du rock. La personnalité de son chanteur charismatique, figé dans une éternelle beauté et jeunesse, n'y est pas pour rien. Mais au-delà de cette personnification, The Doors fut un excellent groupe, et l'album L.A. Woman en particulier. The Doors, c'est un mélange de provocation, d'insouciance, de légèreté, d'engagement, de poésie, de psychédélisme et surtout de liberté créative. L.A. Woman est annoncé à sa sortie comme le dernier disque des Doors avec Jim Morrison, même si on espère secrètement que ce ne sera pas le cas. Ce le sera par la mort de Jim Morrison. En même temps, c'est un album plein de renouveau. Les Doors ont retrouvé le plaisir de jouer ensemble, et c'est là toute l'ambiguïté de ce disque, le dernier qui marque un renouveau. Je suis heureux que L.A. Woman soit notre dernier album. Il a vraiment capturé ce que nous étions. Le premier album également, mais L.A. Woman est plus fluide. C'est du live, cela ressemble presque à une répétition, c'est du pur Doors, disait Robbie Krieger. Alors on n'a pas écouté la totalité des 10 titres que l'album contient, mais je vous invite vivement à combler cette lacune en l'écoutant en intégralité. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne soirée, à très bientôt, au revoir.